Notre siècle nous impose parfois des rythmes qui ne nous permettent pas de nous poser dans la présence du Seigneur. Dieu nous a créés pour le repos. Et même en étant chrétien, on peut être actif dans une disposition spirituelle de repos. Le repos signifie pas inactivité. Le repos, c'est un état d'esprit, c'est un état de cœur. Elle se cherche, mais elle se trouve. Alors nous allons ce matin parler, dans la perspective de tout ce qui a été dit, de racheter le temps. Alors je le conjuguerai en première personne du pluriel. Rachetons le temps. Mais qu'est-ce que c'est que le temps ? Comme la vérité. Le temps autrefois liturgique a cédé le pas à l'horloge mécanique qui gouverne le monde au profit du rendement économique et matériel. On dit souvent que le temps, c'est de l'argent. Ce dicton est bien connu et n'a sans doute jamais aussi d'actualité. C'est dire que le concept du temps n'a pas échappé au processus de sécularisation qui accompagne notre monde dit moderne et qui nécessite d'être nuancé. Est-ce qu'on est si moderne que ça, à l'heure actuelle, qu'il y a 100 ans ou 200 ans ? On parle du progressisme, mais en réalité, nous sommes en train de regresser sur tous les tableaux. Tous les pans de valeur qui font la valeur des civilisations s'écroulent, l'un après l'autre. Toutes les bornes établies par Dieu s'écroulent, l'une après l'autre. Et on ne sait pas où est la droite, on ne sait pas où est la gauche. On prend ce qui est doux pour amer, on prend ce qui est amer pour doux. On a tendance à transformer les lumières en ténèbres et les ténèbres en lumière. Ce qui est bien devient mauvais et ce qui est mauvais est exalté. Je ne sais pas si vous le constatez, mais moi ça m'étouffe. Et le temps exerce une véritable tyrannie sur l'homme moderne qui court sans cesse à gauche et à droite. Pour ne pas décrocher dans cet élan vers le progressisme, disons-t-on, ou pour une entreprise pour rester compétitive et de ne pas se laisser dépasser et gagner beaucoup d'argent. Qu'est-ce que le temps ? Quelle est sa définition exacte ? On va suivre le regard de saint Augustin, qui était philosophe chrétien. Et donc, il va avoir une approche un peu philosophique pour nourrir la raison et la réflexion de ceux qui peuvent réfléchir profondément. Et puis, j'en reviendrai à 5 points pratiques que je ne développerai pas parce que je crois que le temps est court. Je vais en faire 2 et puis je ferai le reste dimanche prochain. Saint Augustin, je le cite, à la question « qu'est-ce que le temps ?» et c'est lui qui dit « si personne ne me le demande, je le sais. Mais si on me demande et que je veuille bien l'expliquer, alors là, je ne sais plus. » Et il poursuit. « Pourtant, je sais que si rien ne se passait, il n'y aurait pas de temps passé. Et que si rien n'arrivait, il n'y aurait pas de temps à venir. Que si rien n'était, il n'y aurait pas de temps présent. » Alors, on va lire ensemble le texte du jour qui nous interpelle. Les deux passages, un dans Éphésiens, l'autre dans Colossiens. Prenez donc garde. Et si on dit donc, c'est une conséquence. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, et dans la version, excusez-moi le terme, c'est marqué fou, mais comme des gens sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ça, c'est un gros lot à employer et à développer. Le second texte, je veux le conjuguer première personne du pluriel, parce que je suis concerné. Conduisons-nous avec sagesse dans nos relations avec ceux qui n'appartiennent pas à la famille de Dieu et rachetons le temps. Ceci étant dit, nous pouvons être animés d'une bonne intention, même des meilleures intentions. Mais vous savez que nous sommes constamment confrontés aux pressions qui peuvent nous étouffer dans notre élan à vouloir bien faire. Je dis bien faire. Et bien faire encore, il faut le nuancer. Ah oui, faire des bonnes œuvres, c'est une chose. Mais faire des œuvres bonnes, c'est autre chose. Ce n'est pas la même chose. Rien que le changement des noms, des emplacements, des mots, change le sens de la phrase. Faire des bonnes œuvres, tout le monde peut le faire. Même ceux qui ne croient pas en Dieu. Ils peuvent donner des chèques pour le resto du cœur. Ils peuvent donner énormes chèques avec des millions de millions pour soigner les malades, le cancer. Mais faire des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance pour nous, il faut le chercher. Souvent, la première, les bonnes œuvres, étouffent la possibilité de réfléchir à la seconde possibilité des œuvres bonnes. Les œuvres bonnes, ce sont les œuvres justes que Dieu a préparées pour nous spécialement. L'œuvre bonne faite par Mireille ne serait pas l'œuvre bonne faite par Isabelle. L'œuvre bonne faite par Samuel ne serait pas l'œuvre bonne faite par Daniel. Chacun dans son couloir de course. Et personne ne peut faire œuvre bonne que Dieu a préparée pour moi à ma place. Et c'est là où tout se joue. Nous pouvons nous enliser dans une routine qui agit contre les nobles buts que nous espérons atteindre. Car dans les temps que nous vivons, il y a beaucoup de distractions qui tentent de nous absorber. Les distractions envoyées par le monde comme une machine de guerre pour nous assimiler au monde. Le monde est le monde. Nous sommes dans le monde, mais nous n'appartenons pas au monde. Mais tout ce qui se fait à l'heure actuelle, dans la communication, dans la manière de faire, dans le travail, dans la recherche du bien-être, il est fait de telle manière que nous puissions être absorbés et assimilés. Au lieu de garder notre nature d'enfant de Dieu, non. On perd cette lumière que Dieu a mise en nous et nous sommes absorbés par le monde. Chaque chrétien doit faire face chaque jour à des défis au sujet de ces temps. Alors, j'ai partagé avec les enfants, l'autre vendredi, une image sous forme de proverbe. Et parfois, ça vaut ce que ça vaut. Il était une fois, il y avait une île où différents personnages y habitaient ensemble. L'un des personnages s'appelle richesse, l'autre bonheur, l'autre tristesse, l'autre l'orgueil, le savoir. Et dans tout ça, il y a un autre personnage qui s'appelle Amour, avec un grand A. Un jour, on annonçait à tous ces personnages que l'île allait couler et qu'il fallait se sauver. Alors, chacun prépare tous ses bateaux et ils veulent quitter l'île. Seul l'amour resta. L'amour voulait rester jusqu'au dernier moment. Quand l'île fut sur le point de sombrer, alors l'amour se décide de pouvoir s'en aller. Mais il appelle à l'aide. La richesse passa à côté de l'amour dans un luxueux bateau. Et l'amour lui dit, « Richesse, s'il te plaît, peux-tu m'amener avec toi ?»« Non, car il y a beaucoup d'argent et d'or sur mon bateau, je n'ai pas de place pour toi. » L'amour décida alors de demander à l'orgueil, qui passait aussi dans un magnifique bateau. « Orgueil, orgueil, s'il te plaît, aide-moi, je t'en prie. »« Oh, je ne peux t'aider, amour. Tu es tout mouillé et tu pourras endommager mon bateau. » Et la tristesse vient à passer. L'amour lui demande, « Tristesse, laisse-moi venir avec toi. » « Oh, non, 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 amour. Je suis tellement triste que j'ai besoin de rester seul. » Le bonheur passa aussi à côté de l'amour, mais il était tellement si heureux. Sa tête dans le casque, il entendait écouter du rap ou quel type de musique, mais il n'entendait pas ce que disait l'autre. Soudain, une voix dit, « Viens, amour, je te prends avec moi. » Et c'était une personne âgée. qui lui avait parlé. Alors l'amour se sentit si reconnaissant et plein de joie qu'il oublia de demander à cette personne bienveillante quel était son nom. Et lorsqu'ils arrivaient sur la terre ferme, cette personne âgée, providentielle, disparaît. Alors l'amour réalisa combien il devait et il demanda à savoir « Qui m'a aidé ? Est-ce que tu connais le nom de la personne qui m'a aidé tout à l'heure ?» C'était le temps, répondit sa voix. Le temps, s'interroge l'amour. Oui, le temps. Mais pourquoi le temps m'a-t-il aidé? Savard sourit, plein de sagesse. Et il lui répond, c'est parce que seul le temps est capable de comprendre combien l'amour est important dans la vie. Et l'amour, c'est qui? L'amour, c'est Dieu. On voit qu'il y a une notion de temps et Dieu au fond. Et cette notion de temps, elle doit être perçue de la manière la plus biblique possible du regard du Seigneur. Car nous venons de fêter la résurrection de Christ. Nous sommes au lendemain de la résurrection, c'est-à-dire 2024 ans. Jésus, avant, le rapport entre Dieu et les hommes, c'est différent. Quand Jésus est arrivé de son vivant, le rapport entre Dieu et les hommes, c'est différent. Ce qui fait que Jésus mort à la croix, parce que de son vivant, il nous a mis à la portée de Dieu. Celui qui m'a vu a vu le Père. Il est le chemin qui nous mène vers le Père. Jésus s'est révélé ainsi. Et quand il a un endroit, il n'est pas partout à la fois. Quand il a Jérusalem, il n'est pas à Béthanie. Quand il a Béthanie, il n'est pas à Bethphagée. Quand il a Bethphagée, il n'est pas à Nazareth. Il n'a qu'un seul endroit à la fois. Voilà que Jésus a connu la mort. Et lors du vendredi saint, nous avons examiné avec vous comment le monde surnaturel a réagi à la mort de Jésus. Jésus a été enseveli. Il n'est pas resté à la croix. Oh, bien-aimé, la vie chrétienne n'est pas la vie de la croix seulement. Si vous vous arrêtez à la croix, vous n'aurez pas tout vécu ce que Dieu a mis en réserve pour nous. Et il y a avant Jésus, il y a pendant Jésus, et il y a après la résurrection, le rapport n'est plus pareil. Notre rapport avec Dieu après la résurrection ne doit plus être pareil, parce que le ciel est ouvert. Dieu a fait de Jésus, le Christ et le Seigneur, assis où? À la droite de Dieu dans les lieux élevés. Là où il y a Jésus, il y a moi. C'est pour dire qu'après la résurrection, Jésus nous a embarqués avec lui dans les hauteurs de l'esprit, au-dessus des forces du mal. Malheureusement, beaucoup de chrétiens vivent leur vie chrétienne, c'est comme si Jésus n'était pas encore mort. Ou alors il est mort, mais il est resté à la croix. Ou alors il est mort, il est ressuscité, mais le ciel n'est pas ouvert. Le ciel est ouvert. La grâce est là, le moment favorable est là. Ne disons pas que simplement que ta volonté soit faite. Oui, dans certaines circonstances, mais la volonté de Dieu a déjà été accomplie. La résurrection de Christ n'est pas une promesse, c'est un fait divin. C'est accompli. Et nous devons rentrer dans la présence de Dieu avec cette intime conviction que nous sommes assis avec Christ dans le lieu élevé. Simplement, le diable va te dire que, mais toi, tu n'es pas parfait. Qu'est-ce que c'est que la perfection aux yeux de Dieu? Ce n'est pas d'avoir bien agi. Ce n'est pas d'avoir insulté. Ce n'est pas d'avoir fait quelque chose de mauvais. Lorsque nous sommes en Jésus, quelle que soit la densité de nos péchés devant Dieu, c'est anéanti. Ayez cette intime conviction. S'il est question que je plaise à Dieu par mes actes, donc la mort de Christ ne servira à rien. Alors je fais de bons actes et je suis béni de Dieu. Et si je le fais ainsi, je méprise l'œuvre de Christ à la croix. Si je commence à faire de bons actes, c'est parce que j'ai connu Jésus que ma nature change et que je commence à m'aligner dans la volonté de Dieu. Ayez vraiment ça présent à l'esprit. Que personne ne vole cette couronne. C'est la bataille de beaucoup de chrétiens, y compris moi d'ailleurs, jusqu'au jour où le Seigneur a ouvert mes yeux dessus. Quand Jésus a dit que tout est accompli, c'est que tout est accompli. Et que c'est en lui que tout devient possible. En Jésus, tout est achevé. Et avec lui, une nouvelle aube commence, une nouvelle perspective commence. Ne vivons pas notre vie chrétienne comme si Jésus était resté à la croix. Et la seule différence, c'est qu'après la résurrection de la croix, il est monté au ciel et il est partout à la fois. Voilà, il est là avec nous, il est là-bas, il est dans divers continents. Il est avantageux pour vous que je m'en aille. Lorsque je m'en serai allé, je vous enverrai le. Et l'Esprit sera où? Il sera avec vous, il sera en vous et il sera sur vous. Avant, il n'était qu'à nos côtés. Quand il est avec Pierre, il ne peut pas être avec Jean. Mais là, il peut être avec moi, il peut être avec vous, il peut être en Afrique, il peut être en Amérique, à l'instant où vous évoquez le nom de Jésus. N'est-ce pas merveilleux? Mais quelle richesse! Quelle richesse! Et c'est l'équivalent de cette richesse que le diable a tenté de détourner. Il ne veut pas que nous nous attachions à la parole de Dieu pour creuser les profondeurs de la pensée du Seigneur. Parce que le diable est malin. Vous savez combien de temps vous disputez pour avoir de temps, même ne fût-ce que pour prier? Voyez-vous? Si le temps n'avait pas d'importance, vous pensez que le diable va s'attaquer à ça? C'est que le temps, c'est très important aux yeux de Dieu. Alors, selon Augustin, il y a trois temps. Le présent du passé, le présent du présent et le présent du futur. Car ces trois sortes de temps existent dans notre esprit et je ne le vois pas ailleurs. Le présent du passé, c'est la mémoire. Le présent du présent, c'est l'intuition directe qui nous permet de savoir ce qui vient de Dieu. Le présent de l'avenir, c'est l'espérance et l'attente. Alors, il y a deux mots qui expliquent la notion du temps dans notre vocabulaire français. Elle s'inspire du grec. Le premier mot, c'est le mot chronos, chronomètre, qui est l'instrument qui lui permet de mesurer le temps, seconde, minute, une heure, un siècle, ainsi de suite. Ce temps, suivez-moi bien, c'était une succession des événements. Ce sont des choses créées qui vivent dans cet espace de ce temps-là. Quand une chose est créée, c'est qu'il est appelé à disparaître. Ce temps sera détruit. Je reprends. Ce temps que nous comptons, c'est l'espace dans lequel vivent les choses créées. Et ce temps sera détruit. Le diable, par sa désobéissance, a été introduit dans le temps pour pouvoir être détruit. Ce temps finira. Mais ce qui est incréé, c'est-à-dire Dieu lui-même, il n'est pas dans ce temps. Il est dans l'éternité. Vous me suivez? Voilà pourquoi Jésus, tout ce qui est entité divine, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, vivant dans l'éternité, en un instant, Jésus est fait incursion dans le temps qui sera détruit, où toi et moi nous vivons, pour nous amener dans l'éternité. Et qu'est-ce que c'est que l'éternité? L'éternité, certes, c'est une notion de temps. Ça intervient. C'est-à-dire le temps qui ne finit pas. Les choses qui ne s'épuisent pas. C'est pour ça que lorsque nous sommes dans l'éternité, nous ne mourrons plus. Nous ne vieillirons plus. Ce qui est dans le temps éternel, il n'y a pas de succession. Tout est statique. C'est pour ça que Dieu se conjugue au présent. Mon nom est « Je suis ». Toi, tu vois le passé, tu vois le présent, tu vois l'avenir, mais dans la présence de Dieu, tout est présent. Et c'est dans cette perspective de temps que nous devons vivre. Rachète le temps. L'apôtre Paul le dit après la résurrection et la montée de Jésus-Christ au ciel. La notion du temps n'est plus pareille. Dieu fait en 1000 ans ce qu'il peut faire en 1 jour, il fait en 1 jour ce qu'il peut faire en 1000 ans. Mais il n'est pas soumis à ce temps-là. Jésus non plus est soumis à ce temps. Pour faire du bon vin dans Jean chapitre 2, il faut du temps. Moi, j'ai fait des études du vin. Mais pour faire du bon vin, il faut du temps. Hein. D'abord, le vignoble, il faudra qu'il soit bien entretenu. Une fois coupé, à de bons moments, il faut le macérer, il faut le mettre dans les cuves, il faut le mettre dans les caves. Et puis, de temps en temps, il faut de l'année pour faire du bon vin. Mais Jésus a raccourci ce temps en un instant pour faire du bon vin. Voilà la vie dans laquelle nous sommes. Ce n'est pas n'importe quoi, ça. Est-ce qu'il y a raison de raser les murs quand on a cette vérité en soi? Voilà, je suis parti. Je ne sais pas si je vais finir mon truc. Alors, je disais que ce temps chronos va être détruit. Et Jésus, par son œuvre rédemptrice, nous arrache à ce temps présent pour nous introduire dans l'éternité de Dieu. Donc, on retrouve la nuance de la rédemption dans le terme « racheter le temps ». Racheter le temps. Hexagorazo, c'est-à-dire tu vas à la place de marché, tu achètes le produit et tu pars avec. Il peut également vouloir dire racheter de la possession ou du pouvoir de quelqu'un, de la servitude. Récupérer notre temps du pouvoir du monde. Récupérer notre temps de la perte ou du mauvais usage. Il peut également dire améliorer l'usage de notre temps pour des buts et objectifs beaucoup plus nobles que les jours mauvais. Oh, que Dieu nous aide. D'où l'expression « Mettez à profit les occasions qui se présentent à vous et tirez le meilleur parti de la période présente. » Et ça, c'est la deuxième partie, définition du temps, qu'on emploie par le terme, bon, ça paraît assez pompeux sur le plan théologique, mais on ne peut pas échapper, c'est le mot « karios », qui signifie « opportunité », le temps favorable. Le temps « chronos » et le temps « karios » qui est le temps favorable. Que signifie mettre à profit les occasions qui s'offrent à nous? Que signifie devenir maître de notre temps? Ce mot qui est plein de poids veut simplement dire sauver. Profiter de toutes les occasions favorables malgré les temps difficiles. Racheter le temps car les jours sont mauvais. Ça, c'est déjà dit. Mais il y a une perspective spirituelle qui se dégage. Et la perspective spirituelle qui est l'éternité que nous partageons tous dit ceci. Racheter le temps, c'est entrer dans la sphère éternelle de Dieu, puisque le temps compté sera détruit un jour pour laisser place à l'éternité et nous devons poser nos actes dans la perspective de l'éternité. On n'agit pas pour la terre seulement. On agit parce que nous voyons quelque chose après. On est citoyen de deux mondes, le monde terrestre et le monde spirituel. Maintenant, il est question de définir qui est-ce qui est la priorité. Est-ce que c'est le monde terrestre? Est-ce que le monde est spirituel, le monde au royaume de Dieu? Et nous venons de l'écouter dans Matthieu 6, 33. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et les autres choses viennent comme une caravane. D'abord la priorité. Si la priorité est le royaume de Dieu, tout ce que je fais, travail, qu'est-ce que je fais encore? Si je vais gagner des milliards, ce serait orienté vers la priorité qu'est le royaume de Dieu. Si ma priorité est la terre, Dieu va devenir un moyen pour que j'atteigne mon objectif. Et si Dieu devient un moyen, il n'est plus celui que nous recherchons. On est dans une disposition d'idole. Dès que nous mettons quelque chose au-dessus de Dieu et que ce ne soit pas Dieu qui est au primat, nous devenons idolâtres. Et il y a des gens qui courent derrière l'argent, qui cassent leur santé, qui oublient leur famille et qui regrettent au crépuscule de leur vie d'avoir gaspillé leur temps. Comme ce jeune homme que je connaissais, j'étais tout petit, je ne savais pas ce que c'est que les diamants. Ce n'est qu'après que j'ai fait les études du diamant. On voulait aller chercher les colombes. Et les colombes chez nous, il n'y a pas de carabine, on a des lance-pierres. Alors, pour que la pierre soit bien orientée, il faut trouver des petites pierres qui sont polies. Et comme ça, lorsque tu décoches, ça va tout droit dans la ligne. Mais si tu prends des pierres qui ne sont pas... Allez hop, la trajectoire change. Et donc, on est allé, on a cherché des pierres au bord de la rivière. Mais il y avait un jeune Américain qui était avec nous, qui voulait apprendre à vivre en africain. Il est allé trouver des trucs comme ça. Et puis après, il est allé décocher les pierres. Il a pris au moins 7 ou 8 colombes. Après, le reste des pierres, comme c'est bien poli, il l'a mis dans sa poche. Il est rentré chez lui à la maison, fier de montrer ses retrouvailles et les produits de sa chasse. Colombe. Alors, il a sorti la pierre pour montrer à ce moment, c'était des diamants. Des diamants. Chez nous, on peut avoir des diamants sur la terre, sur le sol. Et lui, au bord de la rivière, il a trouvé des diamants. Et qu'est-ce qu'il en a fait? C'est pour tuer les colombes. Les diamants qui coûtent cher, il a pris les diamants pour tuer les moineaux. Et dans la vie de beaucoup de gens au milieu de nous, on prend notre temps, on s'en sert pour tuer les hirondelles. Le diamant pour tuer les hirondelles. Le temps. Alors je vais aborder le premier point. Je laisse les quatre autres pour demain, pour dimanche prochain. OK? Mais comment transformer nos bonnes intentions en réalité? Comment vivre le mode de vie que Dieu notre Père, dans sa parole, nous demande de vivre dans ce monde qui travaille contre nous et contre Dieu? Comment gérer notre temps et les opportunités qui se présentent à chacun de nous pour apporter une contribution constructive à notre monde et au royaume de Dieu? La Bible contient de nombreuses clés utiles. Et là, quand on parle de temps, c'est assez compliqué. Surtout que notre communauté est composée de personnes âgées, de personnes jeunes et de moins jeunes. On va énoncer les principes qui s'appliquent à tout le monde. J'en ai proposé 4. Il y en avait 6, mais j'ai proposé 4 ou 5. Mais je vais en faire une ou deux. Premièrement, racheter le sens, c'est fuir l'oisiveté. Combattre la paresse et l'indolence. Et la Bible a dit que tout ce que tu trouves à faire, fais-le avec l'énergie que tu as, car il n'y a plus ni activité, ni réflexion, ni science, ni sagesse dans les séjours des morts vers lesquels vont tous les hommes. Ce que ta main trouve à faire, fais-le. Nous ne venons pas au monde avec rien, démunis. Dieu nous fait venir au monde avec au moins minimum un talent. Minimum un talent ou deux, sinon plus. Pourquoi? Pour que nous puissions contribuer à la construction du monde, entre guillemets. Parce que la grâce générale de Dieu continue. Dieu peut se servir de nous, notre connaissance médicale, pour soigner un non-chrétien. Vous n'allez pas dire que parce que vous êtes non-chrétien, je ne vous soigne pas. Non, la grâce générale de Dieu se manifeste. Et chaque être humain qui vient au monde vient avec une couleur de la part de Dieu, avec une spécialité. Si et seulement si on trouve cette spécialité. Vous voyez l'importance de trouver ses talents. Voilà, de retrouver ses dons en Dieu. Parce que si tu retrouves tes dons, tu ne marches pas sur la plate-bande de quelqu'un d'autre. Tu viens en contribution de ce qui a été fait. Et tout se fait dans un esprit constructif, en complémentarité, pas en rivalité, pas en compétition. Mais tu poses un acte et l'autre vient poser un autre. Le royaume de Dieu en tire parti. Et ça, c'est important. C'est extraordinaire, hein, tout ce que l'on peut faire si on utilise son temps avec sagesse, si on est actif, si on est amené à faire des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous, c'est-à-dire l'action juste au bon moment et au bon endroit. Voilà. C'est ça les œuvres bonnes. Le travail est une institution divine. Le mandat, nous l'avons travaillé dans les exposés que nous avons faits sur nos fiches. C'est le mandat. Le travail est une institution divine. L'être humain a été créé pour travailler. Et le travail est devenu une malédiction après la chute de Adam et Ève. Il devient pénible. Et ce travail retrouve toute sa lettre de noblesse quand on est en Christ. Voilà. Jésus rachète même notre travail. Et il nous exhorte même à travailler. Même pour ceux qui sont au-dessus de nous, même s'ils ne sont pas des chrétiens. Car il est dit, faites tout Soit que vous mangez, soit que vous buviez, faites tout pour la gloire du Seigneur. Donc on ne peut pas séparer nos activités séculières de notre vie spirituelle. Car quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Ainsi, nous sommes appelés à travailler dans la vie professionnelle comme si nous servions le Seigneur. Notre travail séculier doit être fait avec soin et avec diligence. Et là, je m'adresse aux enfants. On fait des études pour être compétent, pas pour avoir que les diplômes. Si vous avez de très bons diplômes en médecine et que vous oubliez les bistouris dans le ventre des malades, alors là, votre diplôme ne servira à rien. Donc, il faut être compétent. Il faut rendre gloire à Dieu dans le travail que nous faisons. Comme disait Martin Luther King au noir de l'époque, de Memphis, j'aurais aimé entendre dire qu'ici, dans cette rue, il y a un balayeur qui sait donner un coup de balai. Parce que lorsqu'il balaye, une nourriture tombe, on peut le mettre dans la bouche parce qu'il fait bien son travail. Il faut bien faire le boulot. Et s'il y a un texte qui m'interpelle, et j'aimerais le partager avec vous, si je ne le développe pas, l'idée, elle est là. C'est dans les livres de Proverbes. Quand souvent Dieu nous amène à aller consulter les animaux pour apprendre la leçon, c'est que nous sommes tombés. Je reprends ma phrase. Si parfois Dieu nous prend, nous amène au zoo pour aller consulter les animaux et tirer une leçon de la part des animaux, ça suppose que nous... Bon, vous finissez la phrase. J'ai passé près du champ de quelqu'un de paresseux et près de la vigne d'un homme dépourvu de sens. Ça dit tout. Et voici, les orties y poussaient partout. C'est pour faire la soupe ou pas, je n'en sais rien. Mais en tout cas, les mauvaises herbes en couvraient la surface et son mur de pierre était abattu. Je regardais d'un cœur attentif et j'ai tiré une leçon. Quelle est cette leçon? Quelle est cette instruction? Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains en te couchant, et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur et la disette comme un homme en armes. Disette comme un homme en armes. Ah, sans armes, oui. Excusez-moi. Il est aussi écrit « Malheur à celui qui fait l'œuvre de Dieu sans y mettre son cœur », autrement dit avec négligence. Vous savez, il y a des péchés parfois qui nous rattrapent. À un moment donné où nous sommes dans une sorte de sommeil spirituel, dû par le nombre de distractions qui absorbent notre attention, il y a des mauvaises herbes au fond de notre cœur qui poussent. Et ça rend la parole de Dieu insensible. Et c'est de ça dont il est question. Il faut veiller, désherber, nettoyer notre cœur. Les encombrants, comme disait Isabelle tout à l'heure. Les encombrants, il y en a. Et on n'attend pas la fin de la semaine pour aller chez le confessionnaire pour se débarrasser des encombrants, comme on le fait à la municipalité. Là. Voilà. Mon frère Loïc, on le sait très bien. C'est de temps en temps. Mais nous, ce n'est pas de temps en temps qu'il faut se débarrasser des encombrants. On se débarrasse des encombrants tout le temps. Et quand on fait l'œuvre de Dieu, il faut s'y appliquer. D'où ce texte, « Malheur à celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. » Faire l'œuvre de Dieu avec négligence, c'est de ne pas y donner son cœur. C'est de ne pas s'appliquer. C'est de ne pas faire l'œuvre de Dieu avec toute la force que nous avons. Il n'est pas dit que ce que vous faites est toujours excellent, mais faites votre meilleur. Donnez le meilleur de vous-même. Et Dieu le sait. Pour des bons motifs et pour le bon objectif. Et l'objectif, c'est quoi? C'est de faire construire le royaume de Dieu. Et pour construire le royaume de Dieu, il faut que je me construise moi-même. Me laisser construire. Il y a des gens qui ne veulent pas se laisser bâtir par la parole de Dieu. Mais combien c'est dur! Je vous avoue, mon cœur saigne. Hein, quand la parole de Dieu est exposée avec une force qui peut changer un point de bascule pour votre vie, et c'est en ce moment-là que certains se ferment les oreilles, ils s'en vont. Mais ne soyez pas étonnés qu'ils soient captifs de l'ennemi. Ils ont une autre pensée, autre que la pensée chrétienne. Nos pensées ne convergent pas. Lorsque tout le monde regarde à droite, eux, ils regardent à gauche. Ça, je le dis, parce qu'en tant que pasteur, je l'ai observé depuis longtemps. Et il y a des fois, on donne le message puissant, le téléphone sonne, on sort pour aller écouter le téléphone. Quel est le message qui est beaucoup plus important? Un téléphone qui sonne par rapport au message de Dieu. Qui peut changer votre vie. Racheter le temps, c'est établir les priorités. Mais ça, je le ferai la semaine prochaine. Que le Seigneur nous aide, déjà dans un premier temps. Savoir orienter nos activités. Être actif. Est-ce qu'être actif signifie simplement faire le travail séculier qui gagne de l'argent? Parfois non. Être actif, c'est être actif dans la prière, dans la recherche de la volonté de Dieu. C'est la seule agence pour l'emploi où tu as le travail, hein? CDI. Il n'y a pas CDD avec Dieu. Ah oui. Aussi longtemps que tu es fidèle dans ton travail, CDI assuré. Et vous ne perdez pas avec le Seigneur, mes bien-aimés. Si le moment présent semble dire que vous avez tout perdu, que vous n'avez rien perdu. Parce qu'avec Dieu, juste un petit exemple, après vous allez comprendre. Nous avons traité la sortie des enfants d'Israël de l'Égypte. Au bout de combien de temps? 430 ans. Alors chez nous en France, quand un mois on n'est pas payé, on met le feu. Mais 430 ans, ils n'ont pas été payés. Mais ils ont continué à faire le travail, même si c'est un travail d'esclavage. Mais c'est pour dire que le temps viendra où le Seigneur va vous rappeler tout ce que vous avez fait pour lui. Dieu ne met pas de côté ce que nous faisons pour le Seigneur. Je peux vous avouer. Tout ce que vous faites pour Dieu, Dieu le rend. Amen. Dieu vous paiera. Il vous rendra au centuple. Et faites l'œuvre de Dieu. Et le Seigneur ne vous sera pas redevable, bien au contraire. Il vous paiera au-delà de ce que vous voulez. Mais attention, parce que les enfants d'Israël, lorsqu'ils ont reçu le rappel de tout le salaire de 430 ans, la richesse les a rendus fous. Ah oui, ils sont devenus complètement fous. Ils ont élevé en idole et ils commencent à adorer. Que les bénédictions de Dieu ne deviennent pas un objet d'adoration. Laissez-la leur place. L'argent, c'est sa place. Et doit nous aider à servir le royaume de Dieu. On ne court pas derrière la richesse pour la richesse, mais on court derrière la richesse comme un moyen pour servir le royaume de Dieu. Si tel est le cas, alors là, je peux vous avouer que le Seigneur fera multiplier par 100, par 1000 votre chiffre d'affaires. Mais tant que cet objectif, vous ne le voyez pas, le Seigneur dira, mais pourquoi lui donnerai-je? Parce que l'argent donné à un insensé contribue à le chuter, à le faire fuir, à le conduire vers des lieux d'indulgence où il va dépenser son énergie, son argent et il va mourir. Je ne peux pas l'encourager. Dieu ne sponsorise pas le péché. Dieu sponsorise les choses qui sont pour son royaume. Je vous invite à la prière. Oui, Seigneur, le message n'est pas terminé. Nous le verrons la semaine prochaine. Mais déjà, les quelques mots qui ont été semés puissent trouver une place dans le cœur de chacun. S'il te plaît, aide-nous à racheter le temps. La Bible a dit dans les livres de Somme, Seigneur, apprends-nous à compter nos jours et appliquer nos cœurs à la sagesse. Qu'il en soit ainsi pour les uns et pour les autres. Nous te bénissons dans le nom de Jésus. Amen.